où les communards roulaient leurs canons vers la dernière demeure de Saleh Gedayat. Nadim était en Syrie au moment de ma visite, ce qui arrangeait bien mes affaires. Plus je grimpais pour rejoindre Sarah dans ces ruelles qui passent sans prévenir du sordide au touristique, puis du touristique au bourgeois, plus je me rendais compte que j'avais encore de l'espoir, un fol espoir qui refusait de dire son nom. Et ensuite, en descendant le grand escalier de la rue du Mont-Cenis, après m'être un peu perdu et avoir croisé un surprenant vignoble, coincé entre deux maisons dont les vieux ceps m'ont rappelé Vienne et Nussdorf, marche après marche vers la mairie du 18e arrondissement, vers la pauvreté et la simplicité des faubourgs qui succèdent à l'ostentation montmartroise, cet espoir se dilua dans le gris qui paraissait attrister même les arbres de la rue Custine, engoncés dans leurs grilles de fonte, cette limitation si parisienne à l'acharnement végétal. Rien ne représente plus l'esprit moderne que cette étrange idée, la grille d'arbre. On a beau vous persuader que ces imposants morceaux de ferraille sont là pour protéger le marronnier ou le platane, pour leur bien, pour éviter qu'on ne nuise à leurs racines, il n'existe pas, je crois, de représentation plus terrible de la lutte à mort entre la ville et la nature, ni de signe plus éloquent de la victoire de la première sur la seconde. Et lorsque je parvins enfin, après quelques hésitations, une mairie, une église et un bruyant rond-point à la rue Championnet, Paris avait eu raison de mon espérance. L'endroit aurait pu être agréable, charmant même. Certains immeubles étaient élégants avec leurs 5 étages et attiques sous des toitures de zinc. Mais la plupart des boutiques paraissaient abandonnées. La rue était déserte, raide, interminable. En face de chez Dayat se trouvait un curieux ensemble, une maison basse et ancienne, du 18e siècle sans doute, accolée à un gros bâtiment en briques, marquant l'entrée d'un parking pour autobus parisien. En attendant Sarah, j'eus tout le temps d'observer les fenêtres du 37 bis, là où Saleh Gedayat avait décidé d'en finir avec l'existence, ce qui, sous le ciel atone d'un gris pâle, n'incitait pas particulièrement à la gaieté. Je pensais à cet homme de 48 ans, colmatant la porte de sa cuisine avec des torchons avant d'ouvrir le gaz, de s'allonger par terre sur une couverture et de s'endormir à jamais. L'orientaliste Roger Lescaut avait plus ou moins achevé sa traduction de La Chouette aveugle, mais les éditions Grasset n'en voulaient plus. Nous n'avions plus les moyens de la publier. José Corti, libraire et éditeur des surréalistes, sera fasciné par le texte qui sortira 2 ans après la disparition de l'auteur. La Chouette aveugle est un rêve de mort. Un livre violent, un érotisme sauvage, où le temps est un abîme dont le contenu reflue en vomissures mortelles. Un livre d'opium. Sarah arrivait. Elle marchait vite, son cartable en bandoulière, la tête légèrement penchée. Elle ne m'avait pas aperçu. Je l'ai reconnue malgré la distance à la couleur de sa chevelure, à l'espoir qui s'insinuait de nouveau dans mon cœur en un serment angoissé. Elle est devant moi. Jupe longue, bottine, immense écharpe terre de sienne. Elle me tend les mains, sourit, dit qu'elle est très heureuse de me revoir. Bien sûr, je n'aurais pas dû lui faire remarquer immédiatement qu'elle avait beaucoup maigri, qu'elle était pâle, les yeux cernés. C'était pas très malin. J'étais tellement surpris par ces transformations physiques, tellement poussé à la futilité par l'angoisse, que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et la journée, cette journée que j'avais provoquée, travaillée, attendue, imaginée, s'engagea sur un chemin lamentable. Sarah était vexée. Elle essaya de ne rien en montrer, et une fois notre visite à l'appartement de Hedayat terminée,